Monsieur Papal pour la cassette. Rendez-vous à ne pas manquer tous les mardis 20h sur Chiz 94,3 FM.
Étudiants et étudiantes de deuxième cycle, connais-tu les services offerts par l'Allier? C'est facile. Les assurances collectives, la SEC, le soutien financier et commandite, accompagnement droit étudiant, les retraites de rédaction, l'agenda universitaire, les services aux assos et le pass universitaire. Pour nous rejoindre, c'est facile. Envoie juste un courrier à allier@commercial.ulaval.ca.
Cherche une salle professionnelle abordable pour produire un événement en plein cœur du centre-ville de Québec? Un atelier privé ou un espace commun pour travailler sur ton entreprise culturelle? Que ce soit pour la musique, le montage vidéo, la photo, la couture, le tatou ou tout autre projet créatif, le centre est là pour toi. Pour en savoir plus, appelle au 418-261-6969 ou écris-nous sur Instagram et Facebook en cherchant le centre Hub Créatif. Le centre, ton lieu de création en plein centre de Québec.
Pignata! Sucrée, surette et délicieuse, la pignata Stadacone, c'est une explosion de saveurs qui fera lever le party, c'est assuré. Que tu préfères l'intégrer dans tes cocktails ou la consommation sur glace, on te promet que tous tes invités vont l'adorer. Nos quatre saveurs inspirées par les bonbons sont pêche surette, cerise atomique, pamplemousse surette et banane guimauve. Tu peux les trouver à la SAQ et à la distillerie Stadacone. En plus, plein de recettes de cocktails sont disponibles au stadacone.com. Santé!
Toi aussi, tu fais de l'anxiété par rapport à l'actualité? Tu veux savoir qui est de ton bord et qui joue dans la même équipe que toi?
Ben écoute, chérie, je me mobilise. Une émission qui crée du lien social et qui permet d'être informé sur l'actualité militante des groupes communautaires et citoyens de tes communautés. Chérie, je me mobilise. Un lundi sur deux de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Parce que quand le feu pogne, tout brûle.
Cherche une salle professionnelle abordable pour produire un événement en plein cœur du centre-ville de Québec? Un atelier privé ou un espace commun pour travailler sur ton entreprise culturelle? Que ce soit pour la musique, le montage vidéo, la photo, la couture, le tatou ou tout autre projet créatif, le centre est là pour toi. Pour en savoir plus, appelle au 418-261-6969 ou écris-nous sur Instagram et Facebook en cherchant le centre Hub Créatif. Le centre, ton lieu de création en plein centre de Québec.
Sinatra, Veranda, Glasper, Davis, Matheny, Mays, Knopfler, Steffi Schock, Herbie Hancock, Slacky, Sirtaki, Charles Hives, Southern Archives, Jerry Allen, Grant Eugène, Cloney, Ellington, Wagner, tous ces artistes et styles et plus encore. Monsieur Papal pour la cassette, rendez-vous à ne pas manquer tous les mardis 20h sur Chiz 94,3 FM.
T'as envie de t'éclater puis renforcer les liens de ton équipe, de vivre une expérience hors du commun? L'École du Rock Ambition a la solution pour toi. Que ce soit entre collègues ou entre amis, venez participer à une activité de 2 ou 3 heures, durant laquelle vous ferez partie d'un véritable groupe de rock. Et on finit le tout avec une session d'enregistrement. Faites vite, nos calendriers se remplissent rapidement. Informations au ambition.com.
Il est 4 heures.
Vous êtes à l'écoute de Chérie, j'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3, votre retour culturel alternatif. Et aujourd'hui, et cette semaine, et pour le reste de l'été, j'ai avec moi à la co-animation Rosie. Salut, salut!
Salut, ça va?
Très heureuse de partager le micro avec toi tout l'été.
Moi aussi, c'est une nouvelle expérience, j'ai vraiment hâte.
On va avoir du fun, tu vas voir. Yeah. Et justement, en parlant de fun, on a plein d'invités super cool qui vont venir nous jaser aujourd'hui à l'émission. On va parler avec avec Valérie Pitre, qui est derrière la compagnie Les Malchaussés. C'est Les Malchaussés qui, cette année, organise à Québec le Festival international de musique corporelle qui a lieu du 17 au 23 août 2026, une première fois à Québec. Ça va vraiment être cool. On va aussi parler avec Vincent Roy, le co-directeur général d'Exmuro, pour parler de la programmation 2026. Et à 17 ans, on va parler avec votre chroniqueur, Alex Tremblay-Lamarche. Alors, tel qu'annoncé en début d'émission, je suis très heureuse d'accueillir à l'autre bout du fil Valérie Pitre. Bonjour, bonjour!
Allô, allô!
Alors, Valérie Pitre, on te connaît derrière le micro comme étant notre incroyable chroniqueuse danse ici à Chérie J'arrive, mais depuis quelques mois, tu organises avec tes compatriotes, certaines de tes compatriotes de la compagnie Les Malchaussés, un événement là, de portée internationale et qui s'appelle l'IBMF ou en français le Festival international de musique corporelle qui aura lieu du 17 au 23 août 2026.
Yes, exactement. Mais tu sais, j'en ai déjà parlé. Il y a en fait une émission, là, le corps musical à CHU, j'avais initié là, les auditeurs à cet univers de la percussion corporelle. Puis j'ai déjà quelques moments mentionné c'était quoi ce festival, l'International Body Music Festival. Puis là, ben, quelle histoire ce festival arrive enfin à Québec dans 2 mois environ. Donc, c'est vraiment, c'est une première, comme tu l'as dit, là, toute excitée d'enfin voir que le bout de cette aventure et l'événement arrive, là. Ça fait plus d'un an que je travaille là-dessus, là. Donc, c'est extraordinaire de savoir que l'événement a lieu, que la programmation est enfin annoncée dans toute sa totalité. On voit là, de plus en plus quelques affiches qui commencent à prendre d'assaut la ville à Québec. Donc, c'est vraiment, vraiment excitant.
Le Festival international de musique corporelle existe depuis 2008, qui a pour but justement de rassembler là, la communauté dynamique d'artistes de musique corporelle. C'est fondé par Kate Terry et Evie Ladin, qui est produit par Cross Pulse. Et vous, les Malchaussés, vous existez depuis 2014 et vous avez quand même assisté là, à trois des festivals internationaux de musique corporelle.
Exactement. Donc, ce qui nous a fait découvrir le festival, c'est lors d'une grande marée danse à Tadoussac où il y a eu une collaboration avec une mini-formule de l'IBMF. Donc, Keith Terry et Evie Ladin étaient présentés à Tadoussac pour offrir des ateliers et ils nous parlaient de la prochaine édition de ce festival-là qui allait avoir lieu en 2018 au Ghana. Et là, la compagnie de Manchester, on a fait « Hey, ben, on veut participer à ce festival-là, on veut découvrir cette magnifique et grande famille. » Déjà, il y avait des amis, collègues à nous de Montréal qui y participaient, donc on a plongé sur l'occasion et on a vécu cette deuxième aventure-là, mais là, sur toute la semaine, donc vraiment sous la formule « grande édition ». On était au Ghana en Afrique, c'était extraordinaire. La rencontre avec les communautés là-bas, l'échange entre les rites traditionnels africains, ce que la percussion corporelle avait à partager, c'était magnifique comme partage. Et la troisième édition a eu lieu en 2024. 2018, c'était l'autre d'avant. Donc, en 2018 et 2024, là, il y a eu quand même une longue pause. Et la communauté était très, très ravie de savoir ce retour à l'événement en 2024 qui a lieu à Athènes, en Grèce. Et là encore, la compagnie, on y a assisté, on a participé. On a même eu une super de belle vitrine pour présenter le travail qu'on fait dans le milieu de la percussion corporelle ici à Québec avec la compagnie. Donc, super de belle plateforme pour rencontrer des gens, partager son travail et tout. Puis ben là, on est revenu de cette édition-là avec le grand rêve fou de le faire venir ici à Québec parce que, comme tu l'as nommé, c'est un festival qui existe depuis 2008 et qui a une portée internationale et qui est nomade. Donc, chaque édition du festival se retrouve à avoir lieu dans un pays différent. Donc, on a eu, il y a eu Ghana, il y a eu la Grèce, il y a eu la France, il y a eu le Brésil, il y a eu l'Indonésie, la Turquie. Et là, c'est une première fois au Canada et ça se passe à Québec. On est vraiment très, très excités de la venue tous les acteurs de l'international, mais aussi de la rencontre avec tous les artistes de notre territoire ici, du Québec et du Canada, qui vont vraiment venir créer une magnifique rencontre de cette grande famille qui, selon moi, va juste encore plus grandir.
100%, puis tu l'as bien nommé, puis c'était là que j'allais, en fait, dans ma prochaine question, c'est que le fait que ça soit un festival nomade fait en sorte qu'on découvre des pratiques en danse percussive, en musique corporelle, de toutes les différentes cultures et pays dans lesquels le festival a lieu. Et ben cette année, le fait que ça soit dans la ville de Québec, ben vous mettez de l'avant justement les danses traditionnelles québécoises et également les pratiques culturelles d'artistes des Premières Nations.
Absolument, c'était vraiment pour nous une grande importance de mettre de l'avant ce territoire culturel qui existe ici à Québec avec les pratiques des Premières Nations, tout leur bagage. Une des premières éditions de l'IBMS, ils ont eu la chance d'avoir deux artistes du Nord canadien qui faisaient du throat singing, donc des chants de gorge, et c'était vraiment, semble-t-il, une expérience extraordinaire. On a essayé là de pouvoir retrouver des artistes, mais on a des artistes extraordinaires d'ici, de la communauté de Wendake, mais aussi d'autres communautés à travers le Québec et le Canada qui vont être présents avec nous. On a Gary McFarland qui va venir nous présenter le bagage derrière la roue de médecine et les origines indigènes derrière les danses nord-américaines. On a aussi Catherine Dagenet-Savard qui va être présente, Nicole Obomsawi qui sont des artistes de cette communauté qui, pour nous, c'était primordial de faire la relation, le pont entre tout ça, mais aussi de mettre de l'avant des artistes de Québec qui ont aussi une pratique en danse percussive, comme la compagnie Théâtre à Tempo qui ont participé à une multitude d'éditions de ce festival-là. Il y a aussi Sylvie Mercier de la compagnie Bourras qui a suivi l'événement. Donc, plein d'artistes, Sandy Silva qui, elle, est à Montréal. Pour nous, c'était aussi très important là de... Le festival se passe à Québec et quand on... Les fois que j'ai participé au Ghana et même en Grèce, on est quand même un beau noyau d'artistes du Québec à participer à cet événement-là. Il y a quand même on est trois grandes compagnies quand même qui œuvrent principalement avec ce bagage-là de la percussion corporelle. Il y a Zogma aussi à Montréal. Donc, ça se développe et c'est beau de voir que... Maintenant, on peut rallier tout ça, mais ici, chez nous, en plus d'avoir l'opportunité d'amener les traditions des autres cultures. Donc, on a le groupe Kekecha qui vient de la Turquie, qui vont venir nous offrir des ateliers en lien avec les rythmes ottomans, des compositions avec sound painting et percussion corporelle qui sont des pratiques qu'eux développent. On a aussi des Musica de Circulo qui est un trio d'artistes extraordinaires que j'ai participé à leur retraite à trois reprises. Donc là, de pouvoir avoir ce trio-là qui vient ici chez nous partager ce rassemblement circulaire-là auquel j'ai participé. Je recommande tout le monde de vivre cette médecine avec le cœur grand parce que c'est extraordinaire. Donc de savoir qu'ils viennent ici à Québec, c'est extraordinaire. Il y a aussi Pak Dewa Putu Berata qui vient de l'Indonésie qui va aussi nous présenter tout ce qui est en lien avec sa culture rythmique, chantée, musicale et tout. Donc, c'est une belle semaine extraordinaire pour vraiment plonger dans cet univers-là de rythme, de culture, d'échange, de jeu. C'est des activités qui sont ludiques. Je pense que la ville de Québec n'est pas prête. On va envahir la ville. Hey, ça va être extraordinaire. Là, il va y avoir la musique au pied carré. Mais ce qui est beau avec ça, c'est que la musique avec seulement le corps comme instrument. Donc, ça ne peut que diffuser la joie et être rassembleur.
Puis, ben justement, il y a le Festival international de musique corporelle qui, je le rappelle, là, chers auditeurs et auditrices, commence le 17 août et se termine le 23 août. C'est une semaine qui est dédiée à la musique corporelle. Et les différentes activités là, vont avoir lieu dans différents lieux de la ville de Québec. La Maison pour la danse, Bibliothèque Gabriel-Leroy, Domaine Maizeray, Parc Victor, Victoria aussi, la Méduse, j'en oublie peut-être aussi. Mais ouais, peux-tu nous dire, en fait, là, que, comment se détaille, parce que là, la programmation, on n'aura pas le temps de tout parler, naturellement.
Ben non.
Peut-être, c'est quoi les différents champs d'activité qu'on peut retrouver dans la programmation, puis quel lieu définit les différentes activités qu'il va y avoir?
Absolument. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux, pour tous les âges, enfants, adultes, des gens qui sont plus initiés dans la musique ou dans le mouvement ou des gens qui sont absolument néophytes. Il y a vraiment une belle programmation pour tout ça. Et dans le fond, majoritairement, ce qui se déroule en journée, on parle vraiment là d'ateliers. Donc, c'est un espace où vous pouvez venir plonger dans un univers et apprendre et bouger avec votre corps, votre instrument et tout ça, et vraiment participer à un atelier découverte ou d'exploration. Ensuite, il va y avoir aussi des spectacles et des événements en soirée. Donc, si vous êtes plus du type à vouloir juste recevoir et découvrir tout cet univers-là, il y a plusieurs soirées. Donc, on commence avec, bien évidemment, notre soirée d'ouverture qui invite tout le monde à assister à ce grand party d'ouverture avec quelques présentations surprises, mais plus vraiment un moment de rassemblement pour faire hey, on est là tout le monde ensemble, bienvenue. Ensuite, on a une soirée de veillée de danse traditionnelle québécoise. Donc ça va se dérouler au domaine Mézeray. Et pour nous, encore là, c'est important de faire vivre les traditions québécoises. Donc une soirée de veillée trad, on pouvait difficilement passer à côté. Et cette soirée-là, il y a quelques activités qui sont en prémisse gratuites là, dans l'espace du parc du domaine Mézeray. Donc, ça peut être aussi intéressant de regarder à ce niveau-là dans la programmation. Certaines activités aussi sont gratuites et familiales, donc ouvertes vraiment à adultes et enfants. Et ensuite, là, on passe à la salle multi de Méduse, où là, on va être là pour 3 soirs de suite. Et on va avoir une soirée micro-ouverte. Donc, tous ceux et celles qui désirent partager un extrait d'un travail ou juste improviser quelque chose en lien avec l'univers des danses percussives vont être le bienvenu à s'inscrire pour cette soirée-là. Donc, ça, c'est une soirée vraiment découverte. Et ensuite, on passe à une soirée d'improvisation. Donc, la soirée d'improvisation, on l'imagine comme un match d'impro musical ou comme un match d'impro danse et tout ça, mais là, dédié seulement à la percussion corporelle, on a fondé 3 équipes d'artistes extraordinaires avec un bel équilibre homme-femme dans chacune des équipes. Et les 3 équipes vont s'affronter avec des thématiques d'improvisation mixte, comparée, fusillade et tout ça. Et aucun instrument sera présent cette soirée-là. Tout ce qui sera en termes musical et mouvement va être fait par le corps seulement. Donc vraiment, c'est comme une première. C'est quasiment expérimental en même temps comme soirée parce que j'en ai jamais vu de ce format-là, des soirées d'impro. Ça va être vraiment extraordinaire cette soirée-là à la salle multi. Et notre dernière soirée va être à la multi, va être notre soirée cinéma. Donc plusieurs artistes qui sont présents à cette édition-ci se spécialisent dans la mise à l'écran de leur pratique avec la danse percussive. Donc on va avoir une soirée pour avoir la chance de visionner quelques films de différents artistes dans cette sphère-là. Et bien évidemment, notre grande soirée, une soirée vraiment avec tous les artistes de niveau plus professionnel vont être présents à le samedi 22 août au Centre Manivelle, donc l'église à Limoilou de Machine de Cirque. On va utiliser cet espace-là pour faire notre grande soirée de présentation, donc un spectacle qui s'appelle Une musique que tu peux voir, une danse que tu peux entendre, donc... Ça va vraiment juste être incroyable cette soirée-là et surtout dans le lieu. On est vraiment très, très chanceux. Et pour finir, le festival, comme tu l'as dit, va avoir un grand rassemblement au Parc Victoria. Si la pluie, si la température nous le permet, s'il y a de la pluie, on va revenir à la maison pour la danse. Mais ce dimanche 23 août, on va clôturer le festival avec une petite soirée à la maison, un rassemblement au Parc Victoria, puis probablement beaucoup de jam.
Ben, c'est ça.
C'est-à-dire, les jams improvisés sont partie prenante de cet événement. Chaque moment où on se sépare, où on se dit au revoir, ben, c'est difficile parce qu'il finit toujours par avoir un petit regroupement de 2-3 personnes qui commencent à jammer ensemble, puis là, hop, ça finit qu'on est 10, on est 12, on s'avance sur le coin d'une rue, puis ça jam, ça chante, puis ça danse, puis c'est juste extraordinaire.
Puis je trouve ça beau aussi que cet événement final-là ait lieu le dimanche au Parc Victoria, parce qu'on sait que il y a des jams, justement, là, de percussions qui ont lieu là, tous les dimanches pendant l'été. Fait que je trouve que c'est vraiment significatif de faire là, cet événement de clôture-là au Parc Victoria. Puis je trouve que dans l'ensemble de la programmation, puis des lieux aussi choisis, je trouve que ça fait écho avec votre expérience des Malchaussées aussi, tu sais, la veillée de Danstrad qui a eu lieu pendant la Grande Marée Danse, qui est un moment super important pour vous, puis avec votre connexion avec le festival, les différents lieux aussi qui sont choisis, qui mettent de l'avant la communauté de danse, mais pas que non plus, tu sais, la communauté du cirque, des arts multi, de la danse corporelle, de la percussion corporelle, pardon. Puis tu sais, tout à l'heure, tu parlais aussi de Musica de Circulo. Tu organises également depuis quelques années là, des rassemblements là, justement de musique circulaire pour présenter là, ceci aux gens de la ville de Québec. Fait que pour eux, waouh, moi je suis.
Exactement.
Vraiment, c'est. Ouais, vas-y. Vas-y.
J'allais dire, en fond, je tiens à dire que pour nous, c'est super important de varier dans les lieux qu'on présente au public d'ici, mais aussi aux gens de l'international qui vont venir participer à cet événement-là. Il y a quand même un désir aussi de faire valoir le milieu culturel de notre ville à Québec dans tous ses paliers, comme tu l'as nommé. Puis on sent que pour nous, ces salles-là, c'est des bons collaborateurs, parce que on est très content de pouvoir avoir accès à ces espaces-là. C'est aussi à nommer, comme tu le disais, avec le Musica du Circulo, pour nous, c'est effectivement dans les dernières années important de l'apporter avec le public ici à Québec, de le présenter. On voit que ça grandit tranquillement de plus en plus. Puis c'est à nommer que le 16 juin, donc la semaine prochaine, mardi prochain, on va avoir une activité justement de musique circulaire à la Maison pour la danse à 19h, qui est dans le but là, de nous aider à continuer à faire du financement pour le festival, parce que bien évidemment, un festival de cette grande envergure ne se réalise pas seul. Puis pour l'instant, là, on est encore à la recherche là, de quelques petits... de quelques petits financements là, pour nous aider vraiment à réaliser l'entièreté de tout ça dans les meilleures circonstances. Donc, si jamais vous avez envie, curieux, vous vous demandez mais de quoi elle parle celle-là avec son affaire de musique corporelle puis de festival, bien, je vous invite à venir mardi prochain, le 16 juin, à la Maison pour la danse à 19h pour une activité de musique circulaire.
Et pour mais merci Valérie, justement je faisais cette petite crush là pour parler de l'événement justement et pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent, on peut voir l'ensemble de la programmation qui est disponible sur le site internationalbodymusicfestival.com ou aussi directement là, sur la page les différentes pages des Malchaussées. Et il y a différentes manières aussi de vivre son festival, différentes manières de participer également.
Absolument. Donc là, je présente toute cette grande semaine-là. Mais si vous avez seulement une journée, vous avez seulement l'intérêt pour un atelier, bien, tout ça, c'est possible. Donc, pour nous, on a développé un forfait qui est la passe complète. Donc, quelqu'un qui est vraiment mordu et qui décide de vouloir faire toute la semaine au complet, on va lui proposer la passe complète. Sinon, on va avoir la demi-passe qui, bon, bien évidemment, est la moitié des activités. Donc, passe complète, 26 workshops, 7 warm-up, échauffement du matin et les 7 soirées événementielles. Demi-passe, on parle de 13 ateliers, 4 échauffements du matin et 4 soirées événementielles à votre choix. Et on a aussi le forfait de 4 ateliers. Donc, vous pouvez vraiment seulement avoir 4 ateliers qui sont... possible d'associer de la façon que vous souhaitez. Donc, si vous êtes seulement disponible 2 jours dans cette semaine-là, vous pouvez choisir vos ateliers pour ces 2 journées-là. Si vous voulez les regrouper au courant de la semaine, c'est tout aussi possible. Et il y a aussi à l'achat là, seulement d'une classe unique qui peut vous être possible. Et prochainement, il va y avoir aussi tout l'accès à la billetterie pour les soirées événementielles, donc tous les spectacles où vous êtes plus présent à titre de spectateur et moins à titre de participant. Donc ça, c'est pas mal le portrait là, global de toutes les possibilités qui s'offrent à vous là, pour vivre cette grande semaine d'atelier.
Merci grandement, Valérie. Avant de poursuivre sur un autre sujet, j'ai envie qu'on parte en musique pour se mettre justement là, dans l'énergie du Festival international de musique corporelle qui a lieu du 17 au 23 août 2026, ici même dans la belle ville de Québec. J'ai envie qu'on écoute une chanson du projet Barbatuc qui seront des nôtres cette année lors du festival. Alors voilà, on met la chanson Samba Lélé de Barbatuc. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de Chis 94.3. C'était Samba Lélé de Barbatuc. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et Barbatuc, qui font partie de l'incroyable programmation du Festival international de musique corporelle qui a lieu à Québec. C'est une première au Canada, ce festival nomade-là. Et voilà, je vous rappelle que ça a lieu du 17 au 23 août 2026. L'ensemble de la programmation est maintenant sorti et je vous invite à vous rendre sur le internationalbodymusicfestival.com pour voir l'ensemble de la programmation, mais également vous procurer vos billets. On est toujours avec, à l'autre bout du fil, votre chroniqueuse danse, Valérie Pitt. Bonjour!
Bonjour, bonjour!
Alors, on reprend parole ensemble pour parler d'un événement qui a lieu ce soir. Dernier événement de la programmation de la Rotonde.
Exactement. Donc, la Rotonde termine sa saison avec le spectacle Raven Mother. un spectacle de la compagnie Dancer of Damla Hamid, je voulais être sûre de bien le prononcer, de Marguerite Grenier, donc une compagnie de Vancouver. Et c'est ce soir la représentation à 20h au Grand Théâtre de Québec dans la salle Octave Crémazy. C'est un spectacle de 75 minutes avec 5 artistes sur scène et qui présente un véritable hommage vibrant de Margaret Harris, une femme aînée autochtone qui a consacré sa vie à maintenir sa culture vivante. Donc, on parle ici d'un récit présenté multimédia avec un jeu d'éclairage et beaucoup d'images, les danses, les chants traditionnels. Et on voit aussi beaucoup de travail au niveau de la sculpture du visage via les masques. Vraiment un travail qui présente la culture autochtone de la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, puis qui vient présenter cette pièce-là pour la première fois, si je ne me trompe pas, à Québec.
Et c'est une seule représentation là, qui a lieu ce soir dans la salle Octave Crémazy du Grand Théâtre de Québec. Puis pour avoir vu justement là, les extraits là, du spectacle, là, ça va être vraiment un spectacle haut en couleur là, qui met de l'avant, comme tu l'as bien dit, Valérie, les traditions là, de l'Ouest canadien des Premières Nations. Donc voilà, ça va être un très beau spectacle à ne pas manquer parce que ben c'est juste une représentation et ça a lieu ce soir à 20h.
Exactement. On vous invite vraiment à profiter de ce dernier spectacle. Et sinon, ben, je vous invite quand même à rester informés, car la prochaine programmation de la Rotonde, là, quelques informations sont déjà annoncées sur cette future programmation, mais il y en aura encore plus à venir. Puis, bien évidemment, on va se retrouver dès la saison prochaine pour en parler davantage.
J'ai déjà très hâte. Merci à toi, Valérie, de nous tenir au courant de toute l'actualité qui concerne le merveilleux monde de la danse ici à Québec.
Ça fait plaisir. Merci à toi.
Merci à toi. Et nous, pour notre part, on s'en va à l'autre bout du fil. Effectivement, on va aller à l'autre bout du fil pour parler avec un autre invité, n'est-ce pas, Rosie?
Oui, exact. On va voir Comment je pourrais le décrire?
On va parler avec le co-directeur général de Ex-Muro qui vont nous parler de leur programmation estivale 2026. Et là, c'est avec Ex-Muro, on le sait, on est dans l'art public.
Exact.
Pour vous teaser un peu, on va retourner là, dans des chaussettes connues là, avec Ex-Muro. On va découvrir des artistes. Peut-être que vous connaissez déjà des artistes de l'international. Bref, on va parler de tout ça dans quelques minutes avec leur co-directeur, le co-directeur de Ex-Muro. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Écoute locale, écoute Chiz 94.3.
Cet été, Punkorama passe en mode légèreté. Des nouveautés, des classiques, la scène locale, on file festif, on file festival. Avant, une semaine sur deux était dédiée à la scène féminine. Mais cet été, place à une scène mixte. Tous les vendredis à 11h, manque pas ça sur les ondes de Chiz 94.3.
Envie d'un festival unique?
Du 11 au 14 juin, rendez-vous à Tadoussac pour la 42e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Plus de 50 spectacles, 20 scènes partout dans le village et une ambiance incomparable qui rassemble les passionnés de musique. Avec Anima Aura, Sarah May, Gab Bouchard, Ariel Soucy et une foule d'artistes à découvrir.
4 jours de musique, de paysages grandioses et de rencontres mémorables. Une présentation de Vidéotron en collaboration avec Hydro-Québec.
Le Festival Bleu-Bleu, présenté par SiriusXM, est de retour pour une 8e édition.
Du 18 au 21 juin, Carleton-sur-Mer accueillera Lou-Adrienne Cassidy, Kinji, Bez Larson, Gab Bouchard, Pai Pai, Jérémy Dutcher, Fine Food Market et bien d'autres. Ne rate pas la soirée électro Homeground Harvest, présentée par la SAT et Mutech, le tournoi amical de Bonsurlot, le marché d'artisans, le tournoi de crib intergénérationnel et plus encore.
Écris à tes amis pour prévoir ton voyage en Gaspésie et réserve ton hébergement. Détails et billetterie au festivalbleubleu.com.
La CADEL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. La CADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
Cible au coin extérieur, le tir.
Chiz 94.3, la radio des champions à Québec.
Un monde de couleurs et de sons est une invitation à découvrir l'univers fascinant de la musique iranienne. À chaque deux semaines, Ali Rangchian présente des œuvres et des artistes qui reflètent la diversité culturelle et musicale de l'Iran. Un rendez-vous musical pour voyager à travers les sons et les histoires d'une grande tradition musicale. Un samedi sur deux, à midi, sur les ondes de Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3 et je suis toujours accompagnée à la co-animation de Rosie.
Oui.
Et Rosie, en plus, ce matin, t'es allée là, découvrir une partie de notre prochain sujet du jour. T'es allée voir une partie justement de la programmation estivale 2026 de Ex-Muro qui réunit 5 artistes de Québec autour de 2 propositions complémentaires, Merveille ordinaire à l'air public et Sentiers insolites déployés dans 2 parcs de la ville.
Exact. J'avais vraiment envie de m'imprégner de c'est quoi le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Fait que je suis allée vraiment là, voir ce qu'il y avait à voir rapidement parce que quand même, j'ai eu une journée bien chargée. Mais justement, je voulais savoir de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui. J'avais vraiment l'impression là, d'être sur Internet puis d'avoir un afflux d'images puis de contenu que je comprenais pas trop. Fait que vraiment, là, une belle expérience immersive.
On va en apprendre davantage parce que on a avec nous, justement, Vincent Roy, qui est le co-directeur général d'Ex-Muro. Salut, salut!
Salut tout le monde!
Salut!
Alors, Vincent, comme je l'ai dit, tu es co-directeur général d'Ex-Muro et vous présentez, là, comme à chaque année, là, une super belle programmation estivale. Cette année n'en fait pas exception. Qu'est-ce qui vous a guidé, justement, pour Ex-Muro et votre équipe dans la programmation là, de Estival 2026?
Bonne question. C'est dans la continuité de ce qu'on fait à l'air public, parce que, tu sais, Ex-Muro, ça va faire 20 ans l'année prochaine qu'on fait de l'art public, puis le projet à l'air public, donc notre bâtiment là sur Place Royale, ça fait juste 3 ou 4 ans qu'on a investi ces lieux-là, puis on s'est mis à faire des expositions intérieures, fait que ça a ouvert tout un espèce de spectre de possibilités qu'on n'avait pas nécessairement avant en extérieur, fait qu'on on pense les expos un peu comme un espace public, tu sais, que tu peux rentrer sans a priori, sans gêne, sans connaître les arts, c'est même pas grave, là, tu sais. On veut créer des belles rencontres avec l'art, des rencontres pertinentes aussi, puis qui vont essayer de, tu sais, trouver des sujets qui touchent aux gens ou à la majorité des gens, même si les gens pensent pas qui pourra avoir du fun dans une exposition en art contemporain, ben nous autres, on dit non, tu peux avoir du plaisir, puis tu peux comprendre des affaires aussi, parce que ça s'adresse pas juste au petit monde de l'art actuel. Donc, il y a une côté accessibilité. Après ça, il y a aussi un choix de thématique. Là, c'est les merveilles ordinaires. Fait qu'on est, moi, je suis parti comme directeur artistique, là, de l'objet. Donc, j'avais envie de travailler l'objet physique, mais aussi l'objet de représentation, l'objet de mémoire, l'archive, l'objet sensible aussi, quelle émotion on va donner à un objet. Puis des fois, c'est un objet vraiment banal, mais qu'on conserve pendant toute notre vie, mais parce qu'il y a un sens. Fait que tout ça, là, c'était des questions super intéressantes que j'avais, puis ben, j'ai réuni des artistes qui, justement, travaillent à partir de l'objet. Gino Quentin, artiste de Québec, qui, lui, a passé sa carrière aussi à modeler des objets, à les transformer, à faire des objets un peu polyformes. Puis là, ben, la proposition, pour la première fois, il a été un peu plus immatériel, donc il a fait un vidéo. Donc, il s'est vraiment mis à la caméra, puis c'est une scène d'un objet affectif qui est le propriétaire de l'objet, finalement, puis qui c'est comme une... C'est un peu difficile à décrire comme ça à la radio. Je pense que l'art visuel, c'est pas pour rien, là. Mais c'est quoi l'affect qu'on peut justement apporter à cet objet-là? Donc, il y a un beau film, assez contemplatif. Marc-Antoine Cofaneuf, lui, il est dans une autre salle. Puis lui, c'est un peu l'inverse. C'est l'objet, aussi un artiste de Québec, mais l'objet qui se retrouve beaucoup sur Internet, justement, dans les. Il a fait une collecte d'objets. C'est plus des captures d'écran sur les sites de vente en ligne comme Marketplace. Puis il y en a des milliers et des milliers. C'est des gens qui vendent leurs objets. Et souvent, c'est des objets un peu bizarres, des objets qui ont l'air un peu sans valeur, des figurines, puis ils appellent ça face. Fait que l'idée face, c'est des objets qui ont des faces, soit des personnages ou des figurines, justement. Puis, avec l'accumulation de tous ces objets-là, ben là, on dirait que des objets t'en regardent, puis des objets, ça devient un peu aussi de la surconsommation d'objets, mais aussi de la surreprésentation de l'image aussi, qui fait référence justement à ce qu'on peut retrouver sur Internet, là, toute cette espèce d'orgie d'images.
Ouais, puis on a l'impression vraiment d'être vu par toutes ces images-là, puis c'est tellement des drôles de visages. Il y en a qui sont beaux, il y a des acteurs, il y a des figurines, il y a des Barbie. Moi, j'ai été marquée par une image de Marc Labrèche. Je sais pas vous, s'il y en a qui vous a pris de court, mais c'est vraiment intéressant de le faire, puis surtout que c'est comme fait en labyrinthe, là. C'est vraiment...
Oui, c'est l'idée d'une espèce de spirale qui commence tranquillement, puis que là, à mesure où qu'on avance dans cette spirale-là, ben on ressent peut-être un peu le poids des images aussi, puis le poids de l'accumulation de toutes ces images-là. Puis pour la première fois, Marc-Antoine, lui, normalement, il travaille beaucoup la collection dans son travail. Il collecte beaucoup d'objets, beaucoup d'objets. Puis là, ben, c'était une façon pour lui de collecter les objets sans les accumuler chez eux. C'est juste un disque dur, puis là, il imprime, puis il colle sur le mur. Ça fait que c'est un beau travail. Ça a été quand même un beau travail de montage, parce qu'il y a, presque... 2 ou 3 000 images là, qui sont collées sur les murs. C'est ça. Puis le travail de Ève Cadieux, qui complète aussi la programmation d'artistes de Québec, elle est dans les voûtes. Je ne sais pas si vous êtes venu à l'air public, mais il y a des voûtes patrimoniales qui sont au sous-sol.
Ils
sont toutes en pierre. Ça ressemble un peu à une espèce de ben, où est-ce qu'on stocke les barils de vin, là, un peu en France, là, toute voûtée. Puis c'est anciennement un lieu d'entreposage en Nouvelle-France, là, dans 1600 quelque chose, là, ils entreposaient des pots puis des sortes d'affaires. Fait que là, il y a comme une espèce de retour sur le passé. Là, si on est plus dans l'objet archive, l'objet mémoire, F. Cadieux travaille l'objet depuis toujours, là, dans sa carrière. C'est aussi une collectionneuse, mais c'est aussi un regard sur l'objet, comment l'objet peut nous expliquer notre passé, notre présent, puis même notre futur. Puis dans sa proposition, ben, elle est partie de l'histoire de Place Royale. Pas l'histoire Nouvelle-France, comme on peut souvent, comme on la reçoit souvent, c'est l'histoire dans les années 60, ils ont décidé de tout démolir la Place Royale, ben, pas tout au complet, mais presque, pour la refaire en une espèce de décor... un peu un peu factice, c'est-à-dire qu'ils ont reproduit l'architecture française pour créer une espèce de décor qui est maintenant Place Royale, qui est un très beau lieu, un lieu très achalandé touristique, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une espèce d'entre-deux, à moitié démoli, il y avait eu des incendies, il y a une taudification aussi qui était projetée à cette place-là. Donc, elle s'est intéressée aux objets qui n'ont pas survécu à l'archéologie, parce qu'ils ont fait des fouilles archéologiques à Place Royale, mais ils n'ont pas tout gardé. Ils ont fait des fouilles rapides. Puis elle a travaillé avec une archéologue là, qui se sont beaucoup documentés. Donc, c'est des images d'archives. Qu'elle a mis dans des boîtiers lumineux. C'est merveilleux, c'est super beau, là. C'est des superpositions d'images d'archives des années, justement, là, 30, 40, 50, 60, à peu près, 70. Puis elle a aussi des objets de ces époques-là qu'elle a fait une collecte là, dans les brocantes un peu du coin. Donc, voilà, c'est une belle proposition, je pense, dans l'ensemble. On tourne autour des objets, puis ben, le fameux bad art...
Ben, c'est ça. C'est ça que j'allais te demander, justement, parce que Merveille ordinaire se déploie également au musée du bad art. Puis, ben, oui. Le musée du bad art, c'est quand même un concept là, unique qui se déploie seulement à Boston, ainsi qu'à Québec. On va pouvoir là, retrouver la continuité là, de Merveille ordinaire dans la nouvelle programmation. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de quelques œuvres phares de cette nouvelle collection, puis peut-être aussi, ben, c'est quoi le musée du Bad Art?
Ben oui, le Bad Art, c'est un super concept. Moi, je suis tombé en amour avec ça. C'est un peu ironique pour un professionnel en art, mais tu sais, le Bad Art, c'est, bon, si on traduit, c'est le mauvais art, mais en même temps, c'est un hommage à l'art qui se trouvera jamais dans des contextes professionnels, dans les musées ou dans les galeries, qui n'ont aucune valeur de vente. C'est des artistes inconnus. C'est des œuvres, c'est une collection d'œuvres. C'est des gens de Boston qui ont parti cette collection-là il y a plusieurs décennies. Puis là, il y en a au-dessus de 800 œuvres qui sont entreposées dans leur container à Boston. Puis nous, ben, dans les dernières années, on en prend... plusieurs dizaines, puis on en expose. Moi, j'aime beaucoup ce rapport-là à l'œuvre qui est un peu manquée, qui est un peu bizarre, surtout bizarre. Tu sais, je parlais d'hommage, justement, ou de merveille ordinaire, ben ça transcrit bien cette relation-là qu'on a avec ces œuvres-là, qu'on peut rire. Tu sais, c'est pas rire de l'erreur, c'est plutôt un hommage à l'erreur, parce que ça donne des œuvres qui sont, pour moi, souvent beaucoup plus intéressantes que des œuvres que je vois dans les musées dans le monde qui me laissent totalement froid parce que ça vient pas me toucher. Là, c'est comme... Il se passe quelque chose dans notre relation à l'art, ça vient comme tout dédramatiser un peu, puis ça vient comme... oui, on peut rigoler, on peut avoir du fun, puis en même temps... c'est donner une valeur autre que la valeur monétaire. Tu sais, on pense souvent au milieu de l'art contemporain, il y a la valeur des œuvres, ça se chiffre par millions. Puis, tu sais, c'est comme un autre monde, je dirais, la valeur. C'est, des fois, le public sont un peu loin de ce monde de l'art-là avec les valeurs des œuvres, mais là, ça vaut rien. Là. J'en ai acheté là, à Québec parce que la moitié à peu près de ce qu'on présente ici dans l'exposition Merveille ordinaire, ça vient de Québec. Fait que pour la première fois, on a du bad art local. Donc, produit chez nous. Fait que moi, j'ai fait le tour. Il y avait une couple de personnes aussi, dont Tania Beaumont, qui trippait pas mal sur le concept. Puis on s'est dit, hey, on fait le tour, puis on fait des collectes. Puis nous, on prenait des photos de ces images-là. Tu sais, au comptoir Emmaüs, Village des valeurs. Ça coûtait 5, 6 piastres, 8 piastres. Puis on prend des photos, on envoyait ça à Michael, le conservateur, puis il nous disait, oui, ça c'est bad art, ça non, ça oui, ça non. Fait que tu sais, il n'est pas bad art qui le veut. Faut vraiment que ça soit quelque chose de décalé. Il faut que le lait devienne beau. Faut qu'il y ait quelque chose de particulier. Quelque chose qui est, ça part d'une bonne intention, mais il y a peut-être quelque chose qui est mal tourné là, dans l'exécution.
Et pour poursuivre là, la programmation estivale 2026 de Ex-Muro, vous avez aussi décidé de replonger dans un concept qui a quand même marqué la ville de Québec, les passages insolites, un parcours là, d'art public qui a été présenté par Ex-Muro à Québec chaque été de 2014 à 2023. Et vous proposez cette année une réinvention de ce concept qui va avoir lieu du 20 juin au 12 octobre 2026. C'est les sentiers insolites, deux parcours d'art public qui vont être déployés dans les espaces naturels de Québec. Qu'est-ce qui a motivé là, ce retour aux sources sous une différente forme?
Ouais, vous allez être déçus parce que je peux même pas en parler. Ben oui, c'est parce qu'on a été trop vite pour l'annoncer. Puis il y avait des étapes administratives qui n'étaient pas encore faites au niveau des instances de la ville et tout ça. Fait que on peut pas le dévoiler encore. Fait que c'est une surprise qui s'en vient cet été. On a décidé de. Bon, je vous laisserai pas avec rien non plus comme ça, là, parce que ça va créer un vide dans l'entrevue, mais. T'sais, oui, passage insolite, ceux qui connaissent le parcours en ville, ils sont conçus pour le Vieux-Québec, l'intégration à l'architecture. Moi, j'avais envie de un peu de me rapprocher de la nature pour voir, t'sais, penser qu'est-ce que ça pourrait donner, mais dans les sentiers. Puis je pense que ça va être pas mal le fun. C'était une sélection. Bon, j'ai dit que je pouvais pas en parler. Fait que je vais rester vague. Ça va être annoncé bientôt. Deux arrondissements de Québec. Je pense que ça va être dans une semaine ou deux. Fait que restez à l'affût de ces sentiers insolites-là. Je vous en dirai plus là, plus tard. Mais ça, je pense que ça va être le fun. Ça va faire du bien aux gens aussi, je pense, d'aller faire un tour d'un parc. Ça apaise. Puis on a tous besoin de ça aussi, cet apaisement-là, surtout dans à l'aube là, des festivals de Québec, puis plein de monde, puis de la chaleur, puis aller dans un parc, ça va nous donner une moultitude de bonnes raisons pour aller à la fois voir de l'art, puis à la fois aussi s'imprégner de la nature. Donc, c'est un beau mariage que je compte exploiter peut-être dans les prochaines années. Là.
Mais je vais devoir te réinviter, mon cher Vincent, là, pour parler de cette deuxième phase, justement, là, de la programmation estivale de Ex-Muro. Mais comme on en a parlé un peu plus tôt, là, depuis quelques jours, vous pouvez aller découvrir Merveille ordinaire, là, qui est présentée à l'air public, ainsi qu'au musée du Bad Art. C'est du 6 juin au 25 octobre 2026 à l'air public, là, qui est vraiment une incroyable salle, là, comme tu l'as bien décrit tout à l'heure. C'est des propositions qui sont gratuites, je vous le rappelle. Vous pouvez rentrer là, justement à l'air public là, lors des heures d'ouverture, naturellement, pour découvrir toutes ces belles merveilles ordinaires. Merci grandement, Vincent. Et si les auditeurs auditrices là, veulent voir, justement, rester à l'affût des activités d'Ex-Muro, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations?
Bien, sur le site d'Ex-Muro, puis sur les médias sociaux et à l'air public aussi. Venez voir l'expo, on va tous vous donner les informations pour la suite.
Merci grandement, Vincent.
Ça fait plaisir, merci à tout le monde. Bye
bye. À bientôt. Alors, voilà Ex-Muro qui nous présente là, sa première phase de sa programmation estivale 2026. Pour vrai, ça va être... Ben, pour toi qui es déjà allé voir une partie, là, t'as bien aimé.
Ça vaut la peine. Puis, tu sais, aujourd'hui, il faisait soleil. Fait que là, t'as comme la lumière de l'extérieur. Tu vois les œuvres, comme on l'a dit, le Bad Art. Moi, ça m'a vraiment touchée parce que, tu sais, on peut pas dire « Ah, oh, ton œuvre est pas belle », mais là, il se retrouve des affaires, mes amis. Vous allez voir, vous allez faire « OK ». Voir que ça, on peut le voir dans un musée, c'est quand même assez intéressant. J'avais presque l'impression d'être dans un cours d'art plastique du secondaire. On voit de tout. Il y a des couleurs, il y a des formes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je le recommande.
Ouais, c'était vraiment, définitivement, deux lieux à découvrir. L'art public d'Ex-Muro, qui est un lieu que j'adore. Là. Ils ont même un café à l'intérieur. Oui. Fait que, t'sais, vous pouvez aller vous prendre une petite bouchée, prendre un petit café.
La boutique aussi. C'est ça, exact. Vraiment des trucs faits à la main, c'est coloré. Je voyais comme plein d'idées cadeaux pour mes amis. Puis comme tu parlais, le café, les gens assis à l'extérieur, là, je les enviais. J'avais envie de pouvoir avoir le temps puis de m'installer avec eux. Fait vraiment un endroit vraiment le fun.
Puis qui est sur différents étages. On a parlé là, des voûtes. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment... Les différents lieux d'exposition sont vraiment différents des uns des autres. Puis qui... qui fait en sorte que les différents artistes qui sont diffusés dans ces différentes salles-là, ben, on les réinvente, on voit...
Puis l'ambiance, t'sais, justement, dans les voûtes, on y va dans l'histoire, dans les archives, fait qu'on est vraiment dans un lieu un peu plus sombre, plus fermé, tandis qu'on monte d'un étage ou deux, ben là, on a des grandes fenêtres, on a des trucs déjantés, fait que pour vrai... J'ai adoré l'emplacement, l'édifice et tout. Là.
Ajoutez ça, cher auditeur, ça va être bucket list de l'été 2026. Allez visiter l'art public de Exmuro et l'exposition Merveille ordinaire qui a lieu du 6 juin au 25 octobre qui réunit trois artistes de la ville de Québec. Et vous pouvez aller du même coup découvrir le musée du Bad Art qui met de l'avant, entre autres, des du mauvais art local trouvé dans vos friperies. On va partir en courte interlude musicale, chers auditeurs, auditrices. Je suis très heureuse là, ben en fait dans les derniers temps. Ah chérie, j'arrive, je parle bien trop puis j'ai pas tant de ça de faire jouer de la nouvelle musique, mais il y a tellement de belles nouveautés là, estivales et une dont je suis très ravie, c'est Pataugeoire qui est le périmètre musical d'Agathe Dupéré qui est une musicienne là qu'on entend jouer avec plein de projets, Pomme, Les Shirley, Safia Nolin, Bastia Boulat et j'en passe. Elle œuvre sur la scène musicale québécoise depuis 2019 et elle nous revient avec un nouveau EP qui est paru le 5 juin dernier. Ça s'appelle Salut et j'ai envie qu'on mette la chanson titre de cet album. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Salut, t'es cool. C'est quoi ton nom déjà? J't'en amour. Allô, c'est fou. Jamais j'aurais pu croire te voir ici, mais oui, c'est sûr que je veux passer du temps avec toi, mais moi, je sais plus. Quand t'es là, j'ai peur de moi, j'ai peur de toi, j'ai peur.
C'était Salut de Pataugeoire. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3. Pataugeoire qui a sorti un nouvel EP qui s'appelle Salut. C'est disponible maintenant sur toutes les plateformes. On va partir en musique encore une fois, mais avec une nouveauté locale. Est-ce que, Rosie, tu connais le projet Tesama?
Pas du tout.
Ben, moi, t'as le faire découvrir avec une chanson qui risque de te rester pognée dans la tête. Okay. Parce que je l'ai dans la tête là, toute la journée, cette tune-là m'a accompagnée. Et ben, peut-être que vous aussi, chers auditeurs, auditrices, allez avoir cette chanson-là, là, surtout le refrain, pognée dans la tête. Et cette dite chanson-là, c'est la chanson Condo de Tesama, un projet de la ville de Québec. Ils ont sorti ce nouveau single-là, Condo, le 29 mai dernier. Fait qu'on écoute ça ensemble, puis désolé d'avance, vous allez peut-être l'avoir pogné dans la tête. Alors voilà, Condo de Tesama, ici à Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Fonds sont insuffisants. Tu vas pas loin.
écoutez Cheese 94.3 FM à Québec.
Après ce long voyage sur le fleuve Saint-Laurent, nous apercevons enfin la rive, camarades. Mais qu'est-ce que je vois? Des festivaliers? Bien sûr, c'est la 42e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Que tu sois avec nous à Tadoussac ou sur une toute autre aventure, manque pas le bateau, une émission en direct depuis le jardin de l'hôtel Tadoussac, les 12 et 13 juin, dès 11h. Au programme, des entrevues et des performances avec des artistes de la programmation. Manque pas ça! Une présentation de Chez 94.3 en collaboration avec le Festival de la chanson de Tadoussac.
Salut, ici Alex Bayergeon et je vous présente le deuxième service du Réchaud tous les samedis et dimanches dès 11h. Le deuxième service, c'est l'actualité de la semaine commentée à ma manière, que ce soit en politique ou en critique de film à l'affiche. Je vous présente tout ce qui a retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous sur mon Réchaud. La saison 8 du deuxième service du Réchaud, c'est les samedis et dimanches dès 11h sur les ondes de Cheese 94.3.
T'as envie de t'éclater puis renforcer les liens de ton équipe, de vivre une expérience hors du commun? L'École du Rock Ambition a la solution pour toi. Que ce soit entre collègues ou entre amis, venez participer à une activité de 2 ou 3 heures, durant laquelle vous ferez partie d'un véritable groupe de rock. Et on finit le tout avec une session d'enregistrement. Faites vite, nos calendriers se remplissent rapidement. Informations au ambition.com.
Étudiants et étudiantes du deuxième et troisième cycle, connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3 et on va continuer là, dans la foulée des nouveautés avec Taxi Girls qui sont de retour avec une nouvelle chanson qui s'appelle Secret Handshake. Ça l'a paru le 5 juin 2026 et on va écouter ça avant de recevoir notre prochaine invitée qui est nul autre. Nul autre que Alex Tremblay, La Marche, votre chroniqueur littérature, qui ajoute toujours une petite touche historique à ses propositions littéraires. Donc, on va écouter la chanson Secret Handshake de Taxi Girls ici à Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. C'était Secret Handshake de Taxi Girl. J'espère que cette chanson-là vous a donné de l'énergie, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive. Et c'est sur les ondes de Chiz 94.3. Et nous a rejoint en studio votre chroniqueur littérature, Alex Tremblay-Lamarche. Bonjour.
Bonjour à toutes les deux.
Salut.
Bonjour à toutes les deux.
Alors, cette semaine, c'est la dernière semaine de des sièges de l'Assemblée nationale.
Exact. Et je me suis dit, on va traiter de quatre ouvrages qui soulèvent des enjeux politiques ou qui peuvent faire un petit écho aux travaux à l'Assemblée nationale.
Alors, le premier ouvrage que tu nous présentes, c'est « Ne rejette pas nos paroles », un livre de Mathieu Arsenault.
Oui, Mathieu Arsenault, professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal. Il offre ici une version vulgarisée de sa thèse de doctorat qui traitait de l'histoire des Autochtones. Donc, l'idée, c'est... Il s'est penché sur l'histoire des Autochtones, mais sur leur agentivité. Donc, comment ils se sont pris en main pour être capables, de faire reconnaître leurs droits. Et ce qu'il voit, c'est que, au cours de la période 1815-1860, les Autochtones, ils déposent beaucoup de pétitions auprès du gouverneur, auprès des autorités pour faire reconnaître leurs droits. Et ce qu'il voit, effectivement, c'est ce glissement-là entre une période où, au final, on traitait un peu de nation à nation. Les Autochtones avaient un rapport de force parce que les colons étaient encore peu nombreux. Les empires coloniaux avaient vraiment besoin d'eux. Et là, tranquillement, on passe à une époque où il y a de plus en plus de gens qui veulent s'établir sur les terres. On a de moins en moins besoin des Autochtones dans les guerres coloniales. Il va y avoir de moins en moins de guerres coloniales, 1812 étant la dernière entre le Canada et les États-Unis. Et comme effectivement, il y a de plus en plus de colons, la population augmente, on veut prendre les terres des Autochtones et on veut tranquillement les mettre dans une case. Et ça, effectivement, ça crée un peu de colère de leur côté et ça fait qu'ils vont tenter de renverser la vapeur en disant non, nous, on n'est pas effectivement une case dans le gouvernement puis on est effectivement une nation de nation à nation et donc on veut parler avec le gouverneur qui est le représentant du roi et non avec un spécialiste des affaires indiennes, un fonctionnaire des affaires indiennes.
Oui, puis comme le nom du livre l'indique, c'est aussi un moment pour raconter justement leur côté de l'histoire également.
Tout à fait. Donc, ce que ne rejette pas nos paroles, c'est issu de ces pétitions-là qui sont présentées par les Autochtones auprès des autorités. Et donc, ce dont nous parle Mathieu Arsenault, notamment, c'est à la fois des revendications des Innus dans ce qu'on appelle le domaine du roi, donc grosso modo la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et des Anishinabés dans la région du Lac-Huron. Et ce qu'il voit, c'est que au final, comme le gouvernement à cette époque-là, effectivement, fait face à des pressions des colons pour avoir de plus en plus de terres, on va souvent ignorer les Autochtones, on va prendre leurs terres. Et les Autochtones, à la base, ne sont pas nécessairement contre l'idée qu'on prenne les terres, mais ils disent c'est nos terres, puis à la rigueur, si vous les voulez, venez vers nous, on va vous les vendre. Mais effectivement, prenez-les pas. Traiter avec nous comme de nation à nation. Et c'est donc, ça. Ce que le livre montre, c'est à la fois la gentilité des Autochtones qui disent c'est ça qu'ils se laissent pas faire, mais ce que le livre montre, c'est aussi le glissement qu'on a à l'époque où tranquillement, les Autochtones vont devenir une case. On s'en va vers le Canada avec la loi sur les Indiens, etc., qui va arriver un peu plus tard. Mais donc, c'est tout ce glissement-là, les prises d'opposition, les résistances, la volonté, effectivement, de négocier avec le roi ou avec le représentant du roi. Donc,
est-ce qu'on a des archives, justement, dans l'ouvrage de certaines pétitions ou revendications, justement, que les nations Innus et ou Anishinaabe avaient à l'époque?
On nous présente, des extraits de pétitions à l'intérieur. C'est vraiment ce sur quoi s'est basé Mathieu Arsenault. Il n'y a pas d'image de documents en tant que tel, à mon souvenir. On a des images notamment de médailles qui ont été remises aux chefs autochtones de la part du roi comme un peu distinction honorifique, ce genre de choses-là. On a quelques portraits de chefs autochtones de l'époque. Mais c'est les documents, effectivement, on nous les présente plus dans ce qui ils apportent que d'un point de vue visuel.
Et pour le deuxième ouvrage, tu nous présentes un ouvrage de Simon Lord, Petite histoire du vélo à Montréal. Puis petite histoire, je suis sûre que cette histoire, elle est beaucoup plus grande qu'une petite histoire.
Effectivement. Bon, là, je dirais, on n'est pas dans un enjeu provincial, mais on est dans un enjeu quand même assez municipal. On l'a vu, bon, dans les dernières années, Soraya Martinez a réussi à se faire élire, notamment en disant qu'elle allait revoir les corridors de vélo à Montréal. Bruno Marchand, bon, a beaucoup tablé là-dessus, puis bon, ça lui a été reproché par certaines personnes, et au contraire, il a été loué pour avoir accéléré le développement du vélo à Québec. Mais comme tu le mentionnes, on n'est pas dans une petite histoire, on est vraiment effectivement dans une longue histoire, parce que le vélo, il apparaît à Montréal. En fait, il apparaît à Québec avant d'apparaître à Montréal, en 1868.
Wow.
Il apparaît sur la terrasse du Frein, et l'année d'après, ben, ça, c'est une démonstration publique de vélo.
Ouais, comment il apparaît? Là, ça a été quoi les premiers balbutiements là, du vélo à Québec slash Montréal?
Ben, c'est une espèce d'invention un peu curieuse qu'on amène ici, puis qui bon, est présentée sur la terrasse du Frein, parce que à l'époque, les roues, c'est davantage des roues de charrette que des pneus comme on a aujourd'hui. Puis bon, les routes ne sont pas asphaltées comme aujourd'hui.
Ah non, c'est ça. Donc, avec les côtes puis tout, là, on est loin du vélo électrique, la gang. Là.
Faire du vélo dans les rues de Québec ou de Montréal, c'est impensable. Donc, dans les premiers temps, le vélo ben, est une curiosité, puis rapidement va devenir un loisir bourgeois qu'on va faire surtout à l'intérieur sur des planchers de bois. Il va même effectivement avoir ce qu'on va appeler une vélocipédomanie, donc une espèce de folie du vélo où tout le monde, effectivement, n'a Dieu que pour le vélo en 1869 à Montréal. Lorsque ça va être présenté, on va organiser des espèces de mascarades où on va faire du vélo costumé, on va organiser des courses de vélo,
ouais,
des grands balles.
Mais pourquoi ça n'existe plus, ça, la vélocipédomanie, là?
Ouais, on a quasiment le même concept à Québec. Il y a beaucoup de cyclistes de route là, qui se donnent, puis je vois vraiment une mode, là, fait qu'on peut quasiment le comparer à ça. Là.
Fait que oui, on milite pour ramener les balles costumées à vélo.
Ah, ça, oui, s'il vous plaît. Quelqu'un.
Mais tout ça pour dire que, bon, assez rapidement, ça va devenir un loisir bourgeois parce que ben, ça coûte cher avoir un vélo.
Ouais.
Dans la première moitié du 20e siècle, ben, là, ce qu'on voit, c'est ben, le vélo devient un moyen de transport pour bon, certaines classes de personnes. Mais avec l'arrivée de la voiture, le vélo va vraiment être relégué à l'arrière-plan. Il y a un chapitre assez intéressant dans l'ouvrage qui s'appelle « Réinventer Montréal, un bulldozer à la fois, 1950-1970 » et qui montre bien que ces années-là ont été assez mortifères pour le vélo parce que ben, à l'époque, on n'a Dieu que pour la voiture. La voiture n'est plus seulement que l'apanage de riches personnes, mais on a effectivement bon, des gens qui... Un peu tout le monde est capable de s'en offrir une et donc on fait des grandes autoroutes, on a beaucoup de place pour le vélo, pas pour le vélo, pour la voiture, et le vélo n'a plus vraiment de place. Et socialement aussi, ben, ça devient un peu loser d'être à vélo, tu sais. Si t'as réussi dans la vie, ben, t'as une voiture, t'as pas un vélo. T'sais, si t'as un vélo, c'est parce que t'es pauvre. Donc, tranquillement.
C'est fou, hein, comment il y a ce changement-là qu'à la base, c'est considéré comme bourgeois, puis il y a même des lieux là, pour pratiquer le vélo. Puis, ben, plus les années vont, ah, ben là, finalement, hein, le vélo s'est rendu. L'auto est là, l'automobile est là, donc ah, le vélo s'est rendu pour les pauvres. Ah, c'est fou. Ça me fait capoter.
C'est complètement dingue de voir comment les choses changent. Et, ben là, t'as la période des années 1970 à 2000 qui est une renaissance. D'abord, davantage, en tant que loisir, on va commencer à développer des pistes cyclables, mais tu sais, les pistes cyclables qui datent de cette époque-là, ben souvent, c'est pas une piste cyclable que t'empruntes au quotidien. Là.
Non, non.
Ça a été pensé pour aller faire du vélo en famille, un dimanche, quand t'es pas pressé, sur une ancienne voie ferrée, ce genre de choses-là, mais ça a pas été conçu pour te rendre du point A au point B le plus rapidement possible. Et finalement, le dernier chapitre nous parle de la période 2000-2025, donc le nouveau millénaire, les nouvelles ambitions, où là, on voit vraiment que le rêve à Montréal, le réseau express vélo, va se développer. On a aussi, bon, les Bixi qui vont se développer à Montréal et qui vont rendre le vélo beaucoup plus accessible. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment le vélo s'est développé à Montréal, comment il y a eu des périodes de grande avancée, des périodes de recul, puis des nouvelles périodes où ça a été possible. Il y a beaucoup de liens à faire au final avec ce qu'on voit à Québec.
Oui,
où,
ben,
c'est ça. Il y a eu aussi un engouement au début que par la suite, bon, c'est tombé un petit peu en désuétude. Puis que là, ben, au cours des dernières années, on voit qu'il y a vraiment un renouveau du vélo avec les corridors sur le chemin Sainte-Foy. Donc, je pense que c'est autant un ouvrage qui va intéresser les cyclistes que les gens qui s'intéressent à l'aménagement urbain, à l'histoire de la mobilité, à l'histoire des loisirs, à l'histoire du transport. Parce que, bon, il faut le dire, le vélo n'est pas qu'un outil de loisir. Il est d'abord et avant tout un moyen de transport.
100%.
Donc, un chouette ouvrage dont on avait avait besoin, à mon sens, parce qu'il n'existe pas grand-chose sur l'histoire du vélo. Et là, ben, on a la chance d'avoir cet ouvrage sur l'histoire de Montréal et l'histoire du vélo.
Fort intéressant. Et pour le troisième ouvrage, tu nous présentes Maître chez nous, un ouvrage ben, quand même collectif là, de plusieurs, ouais. Plusieurs personnes, avec Martine Verdi, Camilla Patino Sanchez et Kathleen Furlong.
Furlong, oui. Donc, Maître chez nous, ça renvoie au célèbre slogan de la Révolution tranquille, avec cette volonté de nationaliser l'électricité au Québec et ben, de devenir maître chez nous. Et ben là, dans ce cas-ci, on nous parle de Churchill's Falls, la fondation d'Hydro-Québec au Labrador. C'est un dossier que, bon, le gouvernement fréchette un petit peu dans les jambes ces jours-ci. Je résume un petit peu l'histoire pour nos auditeurs qui connaissent moins la chose. On est effectivement au milieu du 20e siècle. Il y a un potentiel hydroélectrique au Québec de manière générale, mais aussi au Labrador. Et bien là, on sait ce qui va se passer au Québec par la suite. Il va y avoir énormément de centrales qui vont être développées dans les années 60, 70, Manic 5 et compagnie, la Romaine par la suite. Et bon, ben il y aurait du potentiel du côté du Labrador à Churchill's Falls. Et le gouvernement de Terre-Neuve, ben n'a peut-être pas les reins assez solides pour développer ça. Il va se tourner vers Hydro-Québec pour développer la centrale, une centrale électrique à cet endroit-là. Et ils vont signer un contrat qui dit que pour les 40 prochaines années, l'énergie va être achetée par Hydro-Québec à un tarif qui est dérisoire. Un tarif qui est dérisoire aujourd'hui, mais qui, à l'époque, est un tarif jugé correct. Parce qu'au final, ben oui, c'est pas cher, mais c'est Hydro-Québec qui prend le risque sur le plan financier.
C'était combien?
Le tarif, c'était 0,29 cents. C'est même pas une cent. C'est 0, grosso modo, si on arrondit, 0,3. Un tiers de cent par kilowattheure. Wow. Aujourd'hui, en fait, un kilowattheure, ça coûte à peu près 3,5 cents à produire. Donc, plus ce qu'Hydro-Québec fait, grosso modo, c'est acheter de l'électricité à Terre-Neuve 10 fois moins cher que, puis même un peu plus que 10 fois moins cher que, ben, elle, ça lui coûterait pour le produire. Puis là, après, ben, il y a la revente. Et donc, ce contrat-là était bon pour 40 ans, avec une option de renouvellement de 25 ans par la suite en 2016. Donc, ça se rendrait jusqu'en 2040. Et bon, ben, les Terre-Neuviens, avec l'augmentation du coût de l'électricité, ben, se sont rendus compte que Hydro-Québec fait de l'argent avec ça. Et donc, ils ont voulu amener la cause devant les tribunaux pour faire casser le contrat. Mais bon, à chaque fois, effectivement, les tribunaux ont mentionné que, le contrat a été signé comme ça, avec cette entente-là, Hydro-Québec prenait les risques, donc c'est comme ça. Et ce que le gouvernement Fréchette aurait aimé, c'est que, bon, l'entente qui avait été faite avec le gouvernement de Terre-Neuve se conclut. Mais bon, là, c'est loin d'être sûr que ça va être conclu dans la prochaine année. Et ce que nous propose Martine Verdi, Camilla Patino-Sanchez et Catherine Furlong, c'est d'analyser l'histoire de ce conflit-là, l'histoire de cette centrale-là. Et ce qui nous montre, c'est qu'au final, y a la construction d'une identité qui va se faire à travers cette centrale-là. À la fois, pour les Terre-Neuviens qui vont dire « Hey, on est capable d'avoir notre propre électricité, on se fait avoir, donc tu sais, il faut vraiment qu'on ait notre propre identité puis qu'on développe notre propre système électrique, qu'on soit maître chez nous dans une certaine mesure, mais aussi pour Hydro-Québec, le Québec qui, son identité vient plus de la construction de l'ensemble des barrages dans les années 60, 70, 80, dans cette volonté-là de continuer à s'affirmer comme nation qui développe de l'hydroélectricité. Après, ça se construit sur toute la question du conflit du Labrador, parce qu'à la base, le Labrador, c'était au Québec. En 1927, le Conseil privé de Londres a dit non, on va le donner à Terre-Neuve, et donc là, y a aussi cette question-là un petit peu des fois en fond. Et donc, c'est vraiment sur la construction de cette identité-là, sur l'enjeu qu'il y a entre Terre-Neuve et le Québec, sur les questions constitutionnelles, sur les questions politiques, sur les questions aussi d'innovation technologique que nous entraîne cet ouvrage-là.
Et justement, est-ce qu'à travers cet ouvrage, les trois auteurs-autrices là, qui ont contribué à l'œuvre, on a le point de vue justement nuancé d'autant des gens de Terre-Neuve que des gens de Hydro-Québec?
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que les auteurs sont professeurs de géographie ou titulaires d'une maîtrise en géographie. Dans le cas de Catherine Furlong, elle enseigne la géographie à l'Université de Montréal, alors que Camilia Pentino-Sanchez, elle est titulaire d'une maîtrise en géographie. Martine Verdi, elle est également titulaire d'une maîtrise en gestion des changements environnementaux et d'un doctorat en géographie de l'Université de Montréal. Donc, c'est vraiment des gens qui ont gravité dans le milieu universitaire qui prennent le recul, regardent à la fois des sources de Terre-Neuve, des sources du Québec et sont capables de faire la part des choses pour être capables de voir qu'est-ce qu'il y en est de ce contexte-là. Ce qui est intéressant, c'est que, on a l'histoire du conflit, mais on a vraiment, tout plein de questions intéressantes qui sont posées, tu sais, comme par exemple, à qui profite le Nord? Est-ce que c'est au Québec? Est-ce que c'est à Terre-Neuve? Après, il y a toute la question autochtone qui se jumelle à ça parce que, dans les années 70, notamment, il va y avoir les Cris qui vont avoir tout plein de revendications territoriales lorsque la baie James va être développée par le gouvernement de Bourassa. Et là, on a effectivement les Innus de part et d'autre de la frontière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces frontières-là, ce sont des frontières qui sont canadiennes, mais elles viennent s'imposer sur des territoires ancestraux des Innus qui, c'est ça, ces frontières-là sont un peu artificielles pour eux. Et donc, les Innus du Labrador et les Innus du Québec vont se mettre ensemble, notamment en 1998, pour bloquer une conférence de presse de Brian Tobin, qui est le premier ministre de Terre-Neuve, et Lucien Bouchard, qui s'était déplacé sur place. Ils ont été obligés de faire leur conférence de presse dans une espèce de petite cabane en bois plutôt que la faire là où il y avait prévu. Mais on voit aussi le rôle que les Autochtones viennent jouer là, dans ce conflit-là.
Et pour le dernier ouvrage du jour, tu nous présentes BAMNQ, Vision pour une institution forte.
Oui, BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour les intimes. Qu'est-ce que c'est? C'est la fusion de deux choses, la Bibliothèque nationale. Donc, l'idée, c'est d'avoir une copie de chaque livre qui est publié au Québec. Dans une notion, effectivement, d'archiver ça, puis que, on en ait toujours une copie. Et les archives nationales, qui sont à la fois les archives publiques, donc tout ce que les ministères font, tout ce qui relève de l'État, donc les musées d'État, les hôpitaux, les écoles, doivent verser leurs archives en raison de la loi sur les archives à l'État. Et c'est aussi éventuellement les fonds privés. Donc, mettons que ton grand-père a été particulièrement important ou ta grand-mère a eu une entreprise ou a joué un rôle dans la collectivité en tant que militant, puis que tu as ses archives, les archives nationales pourraient décider d'acquérir ce fonds privé pour effectivement garder la vie de cette personne-là ou la vie d'une association.
Mais là, dans la Bibliothèque nationale de toutes les œuvres, c'est toutes les œuvres littéraires qui ont été produites
toutes
au Québec.
Œuvres,
poésie, théâtre, fiction,
essais,
toutes.
En fait, tout ce qui a une ISBN. L'ISBN, c'est le numéro d'identification unique de chaque livre. Et cette bibliothèque-là, elle est à Montréal. C'est la grande bibliothèque qui conserve vraiment une copie de chacun des ouvrages. Et à la base, c'était deux institutions différentes. La Bibliothèque nationale, c'était une chose. Les Archives nationales, c'était une chose. Et en 2006, les deux entités ont fusionné. Et à l'occasion du 20e anniversaire de cette fusion-là, on a toute une série de spécialistes sur la question de la bibliothéconomie et des archives qui se sont rassemblés pour offrir un ouvrage qui réfléchit sur ces 20 ans-là de BANQ. Donc, on a parmi les auteurs Lise Bissonnette, qui a été la première directrice de BANQ à sa création, Carole Couture, qui est une sommité dans le domaine de l'archivistique, Guylaine Baudry, qui est une bibliothécaire, une spécialiste effectivement de la gestion des bibliothèques universitaires. Même chose du côté de Marie Martel, qui est professeure à l'École de bibliothéconomie de l'Université de Montréal. Et donc, ils réfléchissent ensemble sur l'histoire de BANQ et où est-ce que ça s'en va. On l'a vu, c'est ça, hier, la présidente de BANQ a été, la directrice générale, Marie Grégoire, a été reconduite dans ses fonctions. C'est pas critiqué dans l'ouvrage, parce que l'ouvrage n'est pas sorti aujourd'hui. L'ouvrage est sorti avant qu'elle soit reconduite dans ses fonctions, mais à l'époque, lorsqu'elle avait été nommée directrice générale, ça avait été fort critiqué dans les médias parce que là, on voyait ça comme une nomination partisane. La CAQ nomme une ancienne adéquiste à un poste de gestion assez important. Marie Grégoire, une femme brillante qui a beaucoup d'expertise, mais qui, ne vient pas du milieu des archives, ne vient pas du milieu de la bibliothéconomie. Et donc, à l'époque, il y avait eu vraiment une levée de bouclier de la part du milieu qui avait dit, c'est ça, ça devrait être une personne qui est issus du milieu qui devraient être nommés pour gérer ça. Donc, on revient sur cette controverse-là dans l'ouvrage. On revient également sur les coupures qu'il y a eu au cours des dernières années qui font que BNQ ne peut peut-être pas jouer le rôle qu'elle devrait jouer. On revient aussi sur des orientations qui ont été prises par BNQ. À la base, BNQ a un rôle de conservation et de diffusion des archives nationales, des livres, de notre littérature. Mais c'est ça, au cours des dernières années, il y a une volonté qui a été prise par les différentes directions d'aller du côté de l'alphabétisation, du côté de l'éveil culturel, etc. Des missions qui sont certes louables, mais qui sont à la base pas celles de BNQ. Et donc, on a peut-être dévié un petit peu de la mission. Donc, j'ai envie de dire, c'est un ouvrage qui est assez critique sur ce que BNQ fait depuis 20 ans. Mais c'est un ouvrage qui, à mon sens, est nécessaire parce que ce que j'espère, c'est que les gens qui sont à la direction de BNQ, en fait, Marie Grégoire, les autres dirigeants de BNQ, mais aussi nos décideurs politiques, puissent prendre cet ouvrage-là puis de se dire « Oh, OK, ici, ça mériterait un réalignement. Là, on continue dans la direction où on va parce que, OK, ça serait ça l'idéal, mais c'est pas possible de le faire avec les ressources qu'on a. » Mais je pense effectivement qu'il y a quelque chose à faire avec cet ouvrage-là pour être capable de voir qu'est-ce qu'on devrait faire à BNQ pour les prochaines années.
On aime ça au Québec, la fusion entre les différents et ce peu importe le milieu culturel, la santé, l'éducation, la fusion, on adore.
Ouais, on aime ça. Et donc, la mutualisation est à l'ordre du jour, mais c'est ça, l'ouvrage revient sur cette fusion-là, sur ce qui a fait cette fusion-là, puis revient aussi sur l'histoire des bibliothèques nationales, l'histoire des archives nationales, donc ça peut aider les gens qui connaissent moins BNQ à savoir ce que c'est et à savoir ce que sont les enjeux aujourd'hui dans cette institution-là.
Merci grandement, Alex, de nous avoir fait découvrir ces quatre ouvrages qui parlent de sujets fort intéressants. Est-ce que tu peux nous les renommer en rafale, s'il vous plaît?
Avec grand plaisir. Donc, de Mathieu Arsenault, « Ne rejette pas nos paroles, politique autochtone et gouvernance coloniale au Canada 1815-1860 », ouvrage qui revient sur l'histoire des relations entre les Autochtones et l'État canadien naissant à cette époque-là et qui revient sur les pétitions qu'ils ont faites, sur l'expansion des colons et sur leur volonté de négocier de nation à nation. Ensuite, toujours chez Boréal, « Petite histoire du vélo à Montréal » de Simon Lord, ouvrage qui débute en 1868 avec la présentation d'un premier vélo au Québec, à Québec, sur la terrasse du Frein, puis qui suit toute la folie du vélo qui va s'en suivre à Montréal au 19e siècle, avant effectivement le grand effacement du vélo sous l'impulsion de l'aménagement des villes au profit de la voiture et qui revient sur les 25 dernières années où il y a vraiment eu un renouveau du vélo avec le 21e siècle. On a ensuite traité de Maître chez eux, Churchill's Falls, la fondation d'Hydro-Québec au Labrador, de Martine Verdi, Camilla Patineau-Sanchez et Catherine Furlong, un ouvrage publié aux presses de l'Université de Montréal qui nous fait l'histoire de cette centrale hydroélectrique qui a alimenté tellement de conflits entre Terre-Neuve et le Québec et qui montre le rôle de ce conflit-là dans la création d'identité de part et d'autre. Et finalement, BNQ, Vision pour une institution phare de Guylaine Baudry, Lise Bissonnette, Carole Couture, Gilles Galichand, Marie Desmartel et Jean-François Palomino. Un ouvrage publié aux presses de l'Université de Montréal également qui revient sur la création de BNQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et les enjeux que cette institution connaît depuis les 20 dernières années.
Merci grandement, Alex, et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une autre chronique littéraire. Merci. Et pour notre part, chers auditeurs, auditrices, c'est comme ça qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de Chérie J'arrive, votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et comme nous veut la tradition, je vais remercier et vous répéter les différentes personnes avec qui qu'on a parlé aujourd'hui. On a reçu Valérie Pitt pour parler du Festival international de musique corporelle, un festival de musique corporelle naturellement nomade qui a lieu pour la première fois au Canada et ça se passe ici dans la ville de Québec. Ça a lieu du 17 au 23 août 2026. Ceux-ci viennent tout juste de sortir l'ensemble de la programmation. Donc, je vous invite à vous rendre sur le internationalbodymusicfestival.com pour voir toute la programmation, puis vous créez vous-même là, votre propre expérience. On a aussi parlé du dernier spectacle de la rotonde Raven Mother qui a lieu ce soir. C'est au Grand Théâtre de Québec dans la salle Octave Crémazie à 20h. On a également parlé avec le